Alors, du coup, moi, c'est Baptiste de l'association Bellastock, association d'expérimentation en architecture. Du coup, on fait à peu près la même chose que les Saprofit, sauf qu'on est basé à Paris. Et du coup, on a un territoire qui est différent, qui nous a amené vers des recherches différentes. Et pareil, le groupement de l'association est composé de personnes différentes, avec des ressources différentes. Du coup, bah, ça va être à peu près les mêmes idées, mais qui se sont mélangées différemment, et qui, du coup, aboutissent à quelque chose de différent, mais qui se ressemble quand même. Non, c'est vrai. Voilà, du coup, l'association Bellastock, elle a aussi 10 ans, et elle s'est créée pour faire une ville éphémère de 3-4 jours. Et du coup, tous les ans, on organise un festival qui invite 1000 constructeurs à venir faire une ville éphémère sur une thématique constructive différente chaque année, ou alors un territoire différent. Du coup, il y a deux méthodes pour ce festival. C'est soit le territoire qui va donner le matériau, soit le choix du matériau qui va prédéfinir un territoire. Des exemples un peu simples. Quand on a fait un festival en sac de sable, on s'est installé dans une ancienne carrière de sable. Parce que c'était plus facile, il y avait moins de matériaux à soulever, le matériau était là. Du coup, là, ici, vous avez le festival qui s'était déroulé à l'île Saint-Denis sur le réemploi de matériaux de déchets, déchets banaux industriels. Et du coup, vous voyez des grosses veines qui nous avaient été amenées avec des matériaux qui sont mis à disposition des 1000 personnes que vous voyez juste en dessous et qui ont passé 5 jours à essayer de construire leur habitat et un équipement public de la ville. Et voilà, du coup, et ça avec des matériaux qu'on retrouve dans les poubelles, du coup, bouteilles plastiques, cagettes, palettes, bois divers et variés, moquettes, machin, ainsi de suite. Et ça nous a permis, en fin de compte, d'établir le point de départ d'une recherche sur le réemploi, qui est un peu ce que je vais vous présenter là, sur justement comment utiliser les ressources de la ville. Et du coup, nous, on a décidé de travailler sur comment réemployer les matériaux issus des démolitions de construction. Et du coup, on fait ça. Oui, on est encore sur le festival. J'ai raté ma marche. Et on fait ça aussi. Le festival, c'est aussi des moments de construction collaborative de cette ville éphémère. Alors, c'est une sorte d'utopie qu'on fait tous ensemble. Mais de cette utopie, on a aussi extrait des méthodologies qu'on utilise dans l'espace public. Et on fait aussi soit de la réponse à des commandes de collectivités territoriales sur travailler sur des espaces publics en essayant de faire de la construction collaborative avec des habitants, ou alors quand on nous appelle sur des questions plus techniques sur le réemploi. Du coup, c'est un peu les deux gros volets de l'association qui sont issus en fin de compte de tout ce travail qu'on a fait via le festival, qui du coup, lui, s'est fait pendant 10 ans, et depuis, petit à petit, on a fait de plus en plus de choses. Du coup, ici, c'est le même lieu que sur la première image, sauf que c'est 3 ans après, on a notre laboratoire, qui est un laboratoire construit en réemploi. Et du coup, là, c'est le début du laboratoire. Du coup, maintenant, depuis, il s'est agrémenté de nouveaux bâtiments. Et ici, vous pouvez voir, du coup, de la charpente métal qui a été utilisée pour faire des poteaux, alors que normalement, c'était une charpente en ferme. Là, on la retrouve qui fait des poteaux métalliques. On les voit, je me déplace un petit peu. On voit ça ici. Ici, on voit de la récup de bois qui est issue de récupération de bois d'exposition. Et ici, vous avez un cheminement en pierre qui, lui, est la récupération des voiles béton qui étaient dans le hangar où s'était déroulé le festival. Du coup, il y avait les anciens entrepôts de stockage logistique du printemps qui ont été démolis pour faire un éco-quartier. Et du coup, à la suite du festival, on a un peu forcé la main à la maîtrise d'ouvrage pour lui dire, écoutez, nous, on trouve que la solution de démolition, c'est pas forcément cohérent avec la situation d'aujourd'hui sur les économies d'énergie. On pourra aller un peu plus loin. Et du coup, on leur a dit, bah, si vous voulez, on peut essayer de faire un test expérimental sur comment on pourrait réemployer ces matériaux. Et du coup, ils ont accepté. Et du coup, depuis, bah, on réfléchit à ça. Du coup, là, vous avez ce qu'on appelle un opus incertum. C'est la même technique de construction que les Romains. C'est-à-dire que ils ont inséré de la pierre dans le sol avec un lit de sable et c'est des pierres un peu aléatoires parce que du coup il ne les taillait pas trop pour aller plus vite. Et du coup là c'est le même schéma, le même système constructif qu'une technique ancestrale, sauf qu'on a changé le matériel d'origine, on l'a pris sur la carrière de matériaux qu'on avait le plus proche, qui était du coup à 50 mètres, qui était du coup ce bâtiment en pleine démolition. Ça c'est encore le festival, c'était pour montrer l'image du même endroit, comment il change. Ça c'est les entrepôts, il faudrait que je fasse passer les photos de lui. Voilà, du coup ça c'est l'éco-quartier qui va avoir lieu à l'endroit où on avait la photo d'avant. Et voilà, du coup le contexte géographique c'était ça, c'était d'avoir cette carrière de gisement. Là vous voyez, on a récupéré aussi, on voit quelqu'un qui est en train de récupérer des arbustes sur le toit de l'éco-quartier, enfin sur le toit du hangar qui va devenir l'éco-quartier. Et du coup on a fait aussi des prélèvements de nature qui était là. Du coup on avait toute une palette de plantes qui s'étaient mises toutes seules en arrivant par la Seine et tout ça. Du coup toutes les plantes proches de rivières qui s'étaient quand même implantées sur le toit, du coup on les a sauvegardées en prélevant le maximum pour pouvoir alimenter le futur parc de l'écoquartier. Et du coup on a fait ce genre de truc. Vas-y. Du coup, ça, c'est tout le système. Là, ici, on a les 96 000 mètres carrés d'entrepôts qui sont ici. Et il y a un deuxième entrepôt qui est après, qui est l'ancien entrepôt Lafayette. Et du coup, tout leur projet urbain est de réhabiliter toute cette zone. C'est-à-dire que nous, réaliser du coup l'éco-quartier qu'on voit au-dessus, nous, ce qu'on leur a dit, c'est qu'on pouvait commencer à faire un test ici. Et après, si, en suivant les conclusions de ce test-là, on pourra prélever encore des matériaux dans ce bâtiment-là pour pouvoir alimenter la construction de l'éco-quartier à partir des différents prototypes qu'on a été capable de mettre en place pour l'éco-quartier. Alors, du coup, ça, c'est les gisements de matière qu'on pouvait trouver à l'intérieur. Alors, c'était un lieu relativement assez beau. Du coup, il y a tous les skydomes et tout. C'est un peu une forêt urbaine de poteaux. C'était très poétique. Et du coup, on trouvait dommage qu'ils démolissent le bâtiment. Mais on arrivait trop tard dans le projet pour pouvoir proposer d'autres choses. Et du coup, nous, on a juste proposé de la récupération d'un maximum de matériaux de ce bâtiment. Du coup, les voiles porteurs béton qu'on a utilisées sont les voiles de poutre qu'on voit au-dessus qui soutiennent une voûte catalane en tuiles. Et du coup, nous, on a récupéré ces blocs-là pour faire des routes, enfin, des voies. Et on apprend à récupérer des poteaux, vous allez voir après, les grands poteaux béton qu'on peut utiliser aussi, soit pour refaire des poteaux. Alors là, avec les méthodes des démolisseurs, c'était un peu compliqué de récupérer les poteaux tels quels, parce que la démolition, les gars, ils y vont un peu brut, mais en regardant les méthodologies qu'ils avaient, on voyait qu'on pouvait aussi arriver à des prélèvements de matière qui pouvaient être beaucoup plus fins et beaucoup plus sensibles. Là, on avait une super opportunité, c'est que du coup, on avait un foncier qui était libre pour pouvoir prélever les matériaux, les mettre quelque part et pouvoir continuer de circuler autour avec les machines. Parce qu'il faut imaginer, quand on est en ville dans des espaces très restreints, l'évacuation des matériaux est quelque chose d'important. Sinon, après, les gars, ils ne peuvent pas circuler avec leur machine. Ici, on avait l'opportunité de pouvoir étaler les matériaux, pouvoir prendre de la place. Du coup, on a pu aussi réaliser cette chose-là parce qu'il y avait toute cette opportunité et ce territoire-là qu'offrait les possibilités de le faire. Du coup, on y a implanté la CLAB, qui est l'Action Laboratoire. C'est la petite porte d'entrée avec toujours ce petit opus là, que vous voyez, reproduit aussi pour faire des escaliers, des petits embarchements. Voilà, du coup, nous, on a proposé ce laboratoire qui est notre laboratoire, mais qui est aussi un lieu d'expérimentation pour l'éco-quartier, qui est du coup un nouvel équipement de chantier qui est là pour faire une expertise sur leur emploi. Comme disait Damien, eux, ils ont des outils pour voir comment les résistances des matériaux et tout ça. Ben, nous, on met en place les méthodes pour leur réemploi, pour être capable de faire les autocontrôles qui nous permettent de dire tel matériau, il a encore telle capacité et telle manière de faire. Du coup, ce laboratoire, il sert aussi à habiter le changement. C'est une partie importante du lieu, qui est de pouvoir ouvrir la grande zone qu'on a vue tout à l'heure, qui est fermée derrière des barrières de chantier, au public, qui du coup, qui sont les habitants de l'île, qui du coup, de ce lieu-là, ne connaissent que des barrières de chantier. Ça veut dire que là, ça fait actuellement 20 ans que ce lieu-là est fermé derrière des barrières de chantier. Avant, ils voyaient dépasser le hangar de derrière les barrières, mais ils n'ont pas eu accès à cet endroit-là. C'est un peu un espace vide de la ville. Il n'est pas utilisable. Là, nous, en mettant cet équipement de chantier qui peut expertiser le réemploi et qui, du coup, peut accueillir le public, on leur réouvre cet espace-là en utilisant, du coup, là, on a fait des prototypes de passerelles qui sont avec des tuyaux de protection incendie et les rails de cheminement, parce qu'il y a des petits wagonnets dans le hangar pour déplacer les trucs. C'était le train de la mine, c'était super joli. Et du coup, là, c'est des petites passerelles qui peuvent donner à voir. Du coup, on prend un petit espace un peu plus haut, puis on voit comment se passent les démolitions, comment évolue l'état de gravats. Et du coup, le public peut venir visiter le chantier et voir comment se déroule le chantier en étant dans une zone relativement safe. Je dis relativement safe parce qu'il faut imaginer, tout est construit par nous. Et du coup, il y a des fois des trucs qui traînent et c'est pas tout carreau d'arbre. Ça, c'est des projets qui sont en grande partie autofinancés par l'association. Alors, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas, enfin, on n'y passe pas toujours le temps qu'on voudrait pour bien développer les détails techniques de toutes ces choses. On les a en tête, mais on n'a pas toujours eu le temps de bien les finir. Du coup, là, c'est la partie jardin expérimental, comme vous avez vu. On a récupéré un certain nombre de matériaux qui étaient sur le toit et on les a redispatchés dans la partie jardin. Et là, on voit un certain nombre de prototypes. Pareil, ça, c'est des prototypes de luminaire qu'on a fait avec les tuyaux de protection incendie, avec les petites têtes sprinklers, là, comme dans les films, quand ça fait des douches pour tout le monde. Bon, ben, c'est le même système. Et du coup, là, c'était lors d'une inauguration où, du coup, on a invité les habitants à venir plus particulièrement visiter ce jour-là. Les machines ont été disposées pour qu'on les voit presque en action dans le jardin. D'habitude, elles ne s'approchent pas si près du jardin. Mais voilà, du coup, c'était pour que les gens puissent voir aussi les machines utilisées lors des démolitions et qu'ils se rendent compte un peu de toutes ces choses-là. Du coup, c'est un lieu de travail. Du coup, on a les bureaux qui sont en cours de fabrication, mais les ateliers fonctionnent déjà. On accueille des masterclass pour essayer de proposer à des designers, des archis, des urbains, de venir réaliser des prototypes de mobilier urbain qui peuvent aller dans l'espace public. Ils sont accueillis par des artisans locaux qui ont des savoir-faire techniques sur, par exemple, la plomberie. Pourquoi la plomberie? Parce que on a récupéré beaucoup de tuyaux de plomberie, du coup c'est quand même pratique d'avoir un gars qui s'y connaît en plomberie, parce que du coup c'est cercler le métal, ou alors le plier, le tordre, le souder, du coup c'est les gars qui savent faire ça. Et du coup ces personnes-là apportent un savoir-faire sur ce lieu de travail, où on a un échange qui se fait avec des gens qui sont plus producteurs de dessins et qui se retrouvent à discuter avec des gens qui détiennent des savoir-faire techniques sur comment réaliser les objets et du coup comment essayer de trouver une seconde vie à ces matériaux. Voilà, ça c'est pour montrer le petit observatoire public. Du coup là les personnes sont en train d'expliquer comment a évolué un peu le chantier. Du coup, on voit l'état qui se déplace avec les tris qui se font. Il faut imaginer, nous là sur ce projet-là, on a réussi à récupérer 5 ou 10% même pas les 3% des matériaux du bâtiment. Parce que du coup, on est arrivé tard dans le projet, c'était un peu compliqué d'expliquer à une maîtrise d'ouvrage, à un démolisseur, attention, on va essayer de reprendre tous les matériaux, nickel, et tout. Le gars, il regarde, il fait non, mais moi j'ai chiffré à tel prix la démolition, ça veut dire que j'y vais gros et je casse tout, enfin, je ne peux pas faire autrement, c'est les prix au temps de travail que je peux faire. Du coup, nous, on a réussi à négocier un peu sur un certain nombre de trucs, et de ça, on s'en est servi pour rédiger une recherche qu'on a qui est une recherche publique qu'on a fait pour l'ADEME. Et maintenant, du coup, on est capable d'avoir des méthodologies de description de démolition pour donner ces méthodologies à des maîtres d'œuvre de démolition qui vont du coup décrire les contrats. Les contrats qui lient en fin de compte le propriétaire du bâtiment et les entreprises de démolition pour que ces entreprises de démolition réalisent ces démolitions d'une certaine manière à pouvoir conditionner correctement les matériaux de démolition pour qu'ils puissent derrière être réemployés. Voilà, on peut passer. Du coup, ça, c'est le petit schéma technique de la CLAB. On a les matériaux qui peuvent arriver du territoire et qui sont transformés sur place et qui repartent sur le territoire. Je vous expliquerai après sur un autre schéma, on verra un autre cas d'exemple. Mais du coup, en gros, voilà, ça, c'est l'équipement de chantier, ce qui est le laboratoire. Et du coup, vous pouvez venir quand vous voulez, hein, mais c'est à Paris, à Saint-Denis, mais si un jour vous passez par là, n'hésitez pas à passer, c'est ouvert, il y a des gens qui sont en permanence là-bas. Et du coup, il y a une partie des matériaux qui vont aller en exposition, plus ou moins dans le show park, et une autre partie qui peuvent repartir pour être utilisés pour construire. Toute cette question du réemploi fait appel à la question de l'offre et de la demande, parce que du coup, tout le problème, quand je vous dis que nous, on a récupéré qu'un petit pourcentage de matériaux, c'est qu'on n'était pas non plus, nous, en capacité de dire, effectivement, on récupère 100% du matériel du bâtiment, et on sera sûr d'écouler les 100% de matériaux. Du coup, comme pour l'instant, il y a quand même beaucoup de freins normatifs et techniques à l'utilisation de ce type de matière, la question de l'offre et de la demande, c'est ce qui actuellement ralentit vachement le travail sur ces questions-là. À une autre époque, hein, ça se faisait de manière naturelle. Hein, à l'époque du Moyen-Âge, si moi j'avais une maison que je voulais la péter, les gens me payaient pour venir chercher mes matériaux. C'est-à-dire que tu veux la panne fêtière, tu veux les pierres d'angle et tout, bah tu me les achètes. Et du coup, les gars venaient le démonter en achetant ces matériaux. Aujourd'hui, le déchet est aussi une valeur monétaire, mais pas de la même manière. Il y a toute une question sur la législation du déchet qui est très importante et qui est très verrouillée. Et on peut difficilement sortir un matériau de déchet pour le remettre dans la construction. Par contre, nous, ce qu'on fait en travaillant là-dessus, c'est qu'on travaille sur la prévention de déchets. Alors qu'on va dire, ben non, ça c'est pas un déchet, en fait. Ça, c'est un matériau de construction. Alors là, ça, c'est des exemples d'architecture de stock. Du coup, on s'est dit, quitte à récupérer les matériaux et à ce qu'on les fait patienter un certain temps jusqu'à leur réutilisation, on peut trouver des manières de les mettre en œuvre pour créer un peu un parc public ou une zone où on peut se promener et voir une forme d'architecture. Bon, c'est un peu dangereux, il y a des morceaux de métal, mais une fois coupé, ça va, c'est très spécial. Par exemple, on a travaillé sur une caserne militaire à Nantes qui a été démolie, et on a récupéré tous les sous-bassements de la caserne militaire qui étaient en granit. Et du coup, de ces matériaux-là, on a fait des pyramides aztèques au milieu sur l'ancienne place d'armes, là où tous les gars étaient au garde-à-vous. Et bien là, on a travaillé un espace public où on a du coup des pyramides et du stock de bois qui est disposé d'une certaine manière à ce que ça crée une forme de labyrinthe et de promenade, le temps qu'en fin de compte, ces matériaux, après, soient réutilisés dans le futur espace public. Alors, je reviens en arrière, je ne vais pas montrer les détails techniques. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, nous, de ces matériaux-là, on les stocke et après, on en trouve des solutions techniques d'utilisation. Et à partir de là, on va essayer de voir, comme disait Damien, tout ce qui était toutes les questions liées au DTU, au document technique unifié, quelles sont les techniques de mise en œuvre les plus proches qu'on peut imiter avec un matériau qui est, lui, non normé, non industriel. Et à partir de là, on essaye de travailler sur les règles professionnelles pour essayer, parce que du coup, on peut construire même pour des collectivités territoriales s'il y a des règles professionnelles. Et du coup, c'est d'écrire des règles professionnelles de la construction en réemploi pour retisser un lien plus fort entre les architectes et les artisans. Parce que du coup, on est face actuellement à un monde de la construction qui travaille que sur des matériaux standardisés et qui, du coup, donne des solutions qui sont prêtes à l'emploi. Et du coup, on ne fait plus appel à la technicité et au savoir-faire des, des artisans. Et du coup, sur le travail du réemploi, nous, on pense qu'on peut justement travailler à la conservation de ces savoir-faire et remailler le territoire, en fin de compte, de savoir-faire techniques liés à la construction et qui sont ce que vont connaître un bon maçon, parce qu'un bon maçon ou un bon poseur de pavés, il sera posé autant des pavés en béton que des pavés en granit ou ainsi de suite. Et du coup, c'est de relier bien avec ces savoir-faire. Le problème du réemploi, donc, c'est aussi du coup de passer de la déconstruction au recyclage au réemploi, mais c'est surtout aussi, on voit bien qu'il y a un petit temps de travail à réaliser sur les matériaux pour à chaque fois passer d'un matériau dans un bâtiment à une construction nouvelle. Et en fin de compte, on obtient le matériau de manière à peu près gratuite, mais du coup, ces matériaux, on les obtient quasiment gratuitement. Alors, pas tous les types de matériaux. Hein. On voit que ben, sur le métal, il y a une filière d'écoulement du métal qui va pour le recyclage, où le démolisseur va gagner de l'argent à vendre du métal, alors que le béton, il va être obligé de payer pour mettre ce matériau à la décharge. Et du coup, on peut récupérer ce matériau quasiment gratuitement, mais il y aura tout un travail à faire avec un certain savoir-faire pour restaurer le matériau et le rendre propre à la consommation de la construction. Et ça, c'est une économie de projet qui, du coup, va créer du bassin d'emploi de manière locale, puisque ces matériaux, on ne va pas les délocaliser. Si on les délocalise à chaque fois, on va mettre du coût de transport qui va, du coup, plus rendre le matériau rentable. Ça veut dire qu'on va être obligé de restaurer et de retravailler ces matériaux sur place et de trouver, en fin de compte, un nouveau modèle économique. Le matériau ne sera pas beaucoup moins cher qu'un matériau neuf, sauf que, par contre, il aura créé... je ne sais pas moi, pour une tonne de briques, ça aura créé deux emplois locaux, alors qu'une tonne de briques à la production, loin, c'est un emploi et demi. Enfin, pas, je dis n'importe quoi sur les chiffres, je ne les ai pas en tête. Mais c'est pour donner le contexte. On passe. Du coup, accélérer le temps, c'était dans ce que je vous expliquais sur comment on ouvre une zone de chantier qui est une zone fermée pendant beaucoup de temps. Et bien du coup, en accélérer le temps, c'est générer de l'accueil à l'intérieur de ces zones de chantier qui sont normalement pas ouvertes au public et trouver des moyens d'y commencer de l'activité. Alors forcément, ben, nous, l'activité, une des activités premières, c'est de restaurer des matériaux. En cas de la construction, mais on maille ça aussi d'événements. On travaille aussi avec d'autres associations du territoire qui utilisent nos locaux pour construire, parce que du coup, ça a lieu pas mal de construction, mais aussi pour ça en garde, du coup il y a un peu de place, il peut y avoir des petites guinguettes, il y a des habitants qui ont construit une serre. Et du coup, trouver des moyens d'accueillir les habitants à l'intérieur, c'est leur rendre de nouveau public cet espace qui n'était plus. Bon, du coup, bon, ça c'est un petit exemple de barrière. Ça c'est, ouais, c'est pareil, ça c'est un événement qu'on a fait pour marquer l'étape de la fin de la démolition. Du coup, ici, on a, ça c'est l'ancien hangar hein, qui est maintenant en petit gravat. Alors, vous avez des gravats de 60-80, et puis là, vous avez des gravats 20-40, c'est granulométrie, le gravat, et du coup, c'est l'état différent. Et au milieu, on a un artiste qui est venu intervenir et qui a fait un dolmen avec des pierres de béton, avec des pierres, enfin des dalles de béton qui font à peu près le même poids que les dalles de granit. Hein, celle du dessous, là, elle faisait 11 tonnes. On a un peu galéré à la mettre au-dessus. Ça a été un travail un peu... Même si on avait les machines, hein, on travaillait avec les démolisseurs, on trouvait le moyen, la machine ne pouvait pas soulever le bloc en une fois. Du coup, il a fallu le faire rouler sur les autres. Enfin, c'était un petit challenge. On s'est dit que les Égyptiens étaient très forts, même les Néandertaliens aussi. Voilà, du coup, ça, c'est le plan de la zone. On a fait un cinéma sur l'autoroute et tout ça. Et du coup, là, vous avez le cheminement qu'on voit à travers les... Vous voyez, c'est un plan et on voit à travers le cheminement qui était proposé, qu'on voit ici avec les petites rues balises. Il y avait un tas qui était beaucoup plus gros que les autres, qui était avec un escalier qui avait été modélisé par les démolisseurs à la machine pour monter tout en haut d'un tas de gravats qui pouvait permettre de voir au-dessus de l'autoroute de la 86. Du coup, on était à 4-5 mètres au-dessus de l'autoroute. C'était, voilà, les gens montaient sur un tas de gravats pour aller voir un peu et observer toute cette zone-là. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, le petit chemin. Alors du coup, ça c'est un exemple, pour, comme je vous le disais, sur comment on peut travailler sur le métabolisme urbain, c'est-à-dire que comment la ville peut se reconstruire sur la ville et par la ville. Ici, on a collecté des matériaux isolants qui étaient les chutes de construction d'un chantier. Du coup, c'était le nouveau centre... de SFR, du coup, au moment de la construction, c'était un des plus gros bâtiments de France au moment où ils étaient en train de le faire. Maintenant, ils se sont fait dépasser par le Pentagone français là, de Paris. Mais du coup, c'était un gros, gros bâtiment et ils avaient des chutes d'isolants, fibre à roc, assez conséquentes, hein, parce que du coup, eux, ils posent, puis au moment où il y a un trou qui coupe, puis... Et puis mettre à la bête. Et du coup, il y a une salle de spectacle qui s'appelle Main d'œuvre qui avait des besoins d'isolation acoustique et thermique de leur salle de concert, puisque du coup, eux, ils étaient dans un ancien hangar et les parois du hangar étaient relativement très fines, ce qui offrait des désagréments aux voisins, quoi, puisque du coup, c'était quand même une salle de concert, du coup, il y avait des concerts tous les soirs, jusqu'à minuit, 1h du matin, et les voisins entendaient ça juste derrière des plaques de tôle, du coup, il faut imaginer en plus ça vivre. Ça. Bon, c'était pas. Voilà. Comment on pouvait solutionner ce problème avec ces chutes-là et le problème de l'acoustique et de la thermique du lieu? On est passé par un câble où on a fait de la préfabrication d'isolant. Alors là, on voit bien l'isolant. On a récupéré l'isolant et les palettes l'isolant, il arrivait sur un type de palette un peu particulier qui était dimensionné et fabriqué pour cet isolant-là. Et nous, on a récupéré du coup les palettes. De l'isolant, avec les isolants, les chutes remis dessus. Du coup, on a dû faire un travail de discussion avec le chantier pour leur expliquer comment remettre reconditionner, parce qu'eux, ils conditionnaient en poubelle, hein, comme ça. Et du coup, nous, on leur a demandé, ça serait bien de conditionner bien comme ça. Du coup, eux, ils nous faisaient le boulot, nous, on récupérait juste les tas déjà prêts, et à la fin, on réalisait, du coup, un système de caissons acoustiques qui, du coup, après, dans le hangar, venait faire le caisson de toiture, et du coup, suspendu, avec tout l'isolant à l'intérieur. Du coup, c'est un isolant qui est anti-feu, du coup, ça ne pose pas de problème, et ainsi de suite. Du coup, il avait des super qualités, il était neuf, et on avait encore les marquages produits pour avoir le droit d'utiliser, et tout ça. Du coup, ça, c'est un exemple de là où on récupère de la chute, mais on peut faire le même processus sur des bâtiments en démolition. Et du coup, un des gros travaux de l'association est de réussir à donner les méthodologies pour les artisans et pour les archives pour pouvoir faire ces méthodes-là dans leurs projets. Et après, ben ça, c'est sur la partie matière, qui est celle que je contrôle le mieux. Et après, il y a tout le travail qu'on fait avec les habitants, où là, nous, c'est plutôt... alors, j'ai moins de photos pour ça. Où, en fait, nous, on a quand même une petite tendance à arriver, en fin de compte, sur un lieu et faire ce qu'on appelle des chantiers pionniers. C'est-à-dire qu'on commence à construire, ça appelle des gens à venir discuter, et à partir de là, on va commencer à leur expliquer, ah, ben voilà, ben, nous, on est en train de faire ça, et on va commencer à pouvoir établir des bases de discussion pour comment imaginer construire d'autres choses ensemble. Et du coup, voilà, c'est juste pour rebondir sur comment toi t'avais expliqué le truc. Voilà, pour Bellastock. Je peux dire c'était un petit peu technique, mais c'est un gros travail de l'association qui porte beaucoup de choses. Je me disais que comme Damien avait pas mal déjà expliqué le volet plus habitant social, c'était intéressant de voir un cas très, très pratique et très... C'est un cas qui est un peu compliqué, parce que là, on travaille pour tout le corps de métier de la construction. C'est-à-dire que si on arrive après à trouver des méthodes pour tout le monde, on va pouvoir vraiment faire changer le monde de la construction.